Donc moi je suis paysagiste, j'ai été amenée à réfléchir sur les dépendances vertes ferroviaires. Alors les dépendances vertes ferroviaires, il y en a aussi, on peut dire la même chose, des dépendances vertes autoroutières. Alors ce mot de dépendance verte est assez intéressant puisqu'il a évolué. Avant on appelait ça des délaissés. Maintenant le fait d'avoir introduit la couleur verte fait que, effectivement, en général, quand on fait des plans, on colorie en vert toute une partie du territoire et en général, ça veut dire que c'est planté d'arbres. Donc, la question qui était posée, c'est comment est-ce qu'on plante des arbres sur ces dépendances vertes qui correspondent à des surfaces absolument considérables. Donc, il y a d'une part l'emprise technique d'une infrastructure linéaire comme une ligne TGV. Mais il y a donc toutes ces excroissances que vous pouvez deviner sur ce plan, qui sont donc ces fameuses dépendances vertes. Donc là, si on est amené à les boiser, en général, c'est lié à des obligations de l'État, qui doit par rapport à des milieux dégradés, redonner de la vie à des espaces qui ont été considérablement dégradés. Donc depuis une trentaine d'années, les pratiques couramment utilisées dans ce genre de cas, c'est donc de bâcher avec de la bâche plastique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a toute une partie de sensibilisation auprès des riverains où on montre des images d'espaces boisés. Et en général, on dit, vous inquiétez pas, si vous avez une ligne TGV qui va passer dans votre jardin ou un peu plus loin, regardez, les paysagistes vont intervenir et ce sera très beau. Seulement, quand les paysagistes sont partis, voilà, c'est plutôt l'image d'en bas qu'on a. Donc, c'est des bâches plastiques étendues sur des hectares et une banalisation des paysages et puis une valeur ajoutée environnementale absolument, plus que contestable. Souvent, c'est plutôt une dégradation de l'environnement. Et puis, comme vous l'a dit Philippe Van Lerberg, le contexte juridique a évolué et aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les bâches plastiques comme on les utilisait avant, c'est-à-dire qu'on est obligé de les déposer et de trouver des filières de valorisation qui n'existent pas aujourd'hui. Donc en 2002, j'ai eu la possibilité de proposer à Réseau Ferré de France de financer un programme de recherche pour développer des structures végétales écologiques, c'est-à-dire qui soient alternatives aux techniques traditionnelles, à savoir la bâche plastique ou l'utilisation d'herbicides. Qui soient à la fois des techniques écologiques et économiques. Les trois volets qui ont été proposés, c'est d'une part développer le paillage biodégradable pour les jeunes plantations, le semis direct d'arbres et les systèmes de piège à graines, c'est-à-dire considérer que les oiseaux et le vent sont de très bons semeurs d'arbres. Par contre, on peut les aider un petit peu de manière à favoriser en fait le développement d'arbres sans intervention lourde. Donc je développerai après ces trois thèmes. Donc il y a eu un premier travail préalable bibliographique qui nous a conduit à proposer à Réseau Ferré de France donc un site expérimental de grande envergure, donc qui fait 35 hectares et qui est situé sur la commune de Clé-Souilly. Alors il faut savoir que ce terrain était un terrain qui correspondait à peu près à l'image qu'on peut avoir de la Lune, c'est-à-dire que c'était un site qui avait servi de base-vie pendant le chantier TGV. Et donc il y avait eu un stockage de 130 000 mètres cubes de matériaux, donc ça correspond à un petit hameau de tas de matériaux, donc ça avec évidemment un effet de compactage des sols très fort. Une base vie, c'est-à-dire qu'il y avait des bungalows, des parkings de camions, enfin c'était un site absolument dégradé d'un point de vue du sol. Et puis en amont, il y avait eu aussi des fouilles archéologiques, donc l'ensemble du sol était complètement modifié. Et alors la gageure était de verdir, puisque c'était l'objectif, ce terrain, donc avec des arbres, et de faire avec toutes ces contraintes de sol, tout en mettant en place des expérimentations qui nous permettraient d'acquérir un maximum de connaissances sur les trois volets dont je vous ai parlé. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc, pour le paillis biodégradable, l'enjeu, c'était de faire déjà une synthèse des produits qui existaient sur le marché en 2002, et puis de faire un bilan technico-économique des techniques, et donc d'étudier l'impact des paillis sur la croissance des arbres en hauteur et en diamètre. Donc, il y a eu 14 modalités mises en place, des quatre familles connues des paillages. Donc, les quatre familles, c'est d'une part les feuilles, tout ce qui concerne les films plastiques, biodégradables ou non, les plaques, tout ce qui concerne les matériaux agglomérés à base de fibres végétales, donc plaques de bois ou plaques de liège, tout ce qui concerne les feutres, donc les matériaux tissés, et ensuite les fluides. Donc, on a fait une sélection dans ces quatre familles. Et je vais revenir sur les fluides, puisque en fait le problème des fluides dont le BRF fait partie ou le broyat de bois font partie, c'est la proximité d'une source d'approvisionnement proche, parce que c'est des matériaux qui sont souvent en vrac, donc on ne peut pas se permettre de les transporter facilement. Donc les fluides disponibles dans le milieu ferroviaire, c'était le ballast et la traverse de chemin de fer broyé. Alors, je vais revenir dessus à la fois sur le terrain et plus tard, notamment concernant les résultats. Et puis, effectivement, on a fait un test sur la surface paillée par rapport à la croissance des végétaux. Donc, Philippe a abordé la question tout à l'heure. Et donc, le dispositif a été mis en place en décembre 2003 sur 2,5 hectares. Il y a eu également un suivi photographique de tous ces matériaux, puisque là, on va le visiter, ce site, mais la plupart des matériaux biodégradables ont été effectivement biodégradés, donc il reste uniquement la taille des arbres qui peut... la croissance différente des arbres qui montre qu'il y avait eu un paillage différent pour la plupart des modalités. Mais je vais vous parler donc des premiers résultats. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il y a un effet paillage sur la croissance des arbres, c'est-à-dire que toutes les modalités où les arbres ont été paillés, la croissance a été plus importante. Il y a une meilleure croissance en hauteur et en diamètre chez le merisier sur les modalités traverses de chemin de fer. Donc ça, c'est un résultat qui nous a beaucoup perturbés, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on sait que la créosote, donc qui est la créosote, en fait, c'est les 16 HAP, donc les hydrocarbures les plus dangereux pour l'homme, en tout cas, ne sont pas phytotoxiques, puisqu'on peut observer facilement que des herbes poussent sur les traverses de chemin de fer quand elles sont abandonnées. Donc, ce qui était prévu initialement, c'était de faire, en parallèle à ça, une étude du sol, notamment toutes les lixivias, c'est-à-dire les pluies qui auraient lavé les broyats, pour voir s'il y avait des incorporations de cette créosote dans le sol et quelle était l'incidence sur la faune du sol. Ça n'a pas été fait, malheureusement, mais le résultat est là. Les merisiers paillés avec de la traverse de chemin de fer ont une croissance plus importante que par rapport aux autres modalités. Le broyat de bois aussi a montré de très bons résultats. Donc voilà en résumé les principaux résultats. Par rapport aux semis d'arbres, alors ce qui a été montré, c'est que effectivement on a un gros problème quand on veut faire venir des arbres dans des terres anciennement agricoles, c'est la concurrence avec les herbes. Donc, on a vu que le paillage avait un effet sur cette concurrence, un effet bénéfique. Par contre, quand on part de la graine, on ne sait pas trop pailler des graines. Donc, il a été... et puis, on ne sait pas non plus contrôler le matériau graine comme on sait contrôler la fourniture des plants forestiers. Donc, on a fait tout un travail sur la qualité des semences, sur la provenance des semences, et sur les filières d'approvisionnement des semences d'arbres qui sont beaucoup moins développées que les filières de pépinières. Donc ça, c'était une première étape. Et puis ensuite, comment semer les arbres pour éviter la concurrence avec les herbes? Et puis avec quel outil les semer? Donc on a travaillé avec une technique qui est aussi qui commence à être utilisée en plantation forestière. C'est l'accompagnement herbacé en association au ligneux, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de paillage, c'est la couverture herbacée qui sert de paillage. Donc c'est, Philippe l'a un peu abordé ce matin, c'est un mélange plurispécifique qui comporte à la fois des crucifères, des légumineuses, des plantes aussi ornementales pour l'effet paysager, et donc qui empêche la prolifération des graminées pendant au moins les trois premières années de développement des arbres. Et puis, donc je ne vais peut-être pas détailler, mais donc on a utilisé des mélanges ligneux qui sont issus des écosystèmes qu'on trouve naturellement en milieu forestier ou dans des colonisations spontanées ligneuses, à savoir les mélanges fruticés, fruticés arbustifs, fruticés plus arbustifs hauts, et des mélanges qui composent une chênaie. Et puis, différents mélanges de couvertures herbacées, avec plus ou moins de graminées, puisqu'on est des fois obligé de semer sur des talus. Et l'idée, c'était de voir si ces mélanges qui sont semés très peu denses sur des talus, sans graminées, nous posaient un peu de problème, puisque en fait, le pouvoir de tenue des talus des graminées est connu. Donc là, on a fait varier les mélanges herbacés. On a également fait des tests de semis sur mulch, c'est-à-dire qu'on étend un mulch sur l'ensemble de la surface à semer, sur différentes épaisseurs, soit 2 cm, soit 6 cm, et avec des techniques soit hydrauliques, c'est-à-dire qu'on a mélangé des graines dans une cuve de semoir hydraulique, et on a associé le mulch aussi, et on a tout semé en même temps. Donc ça, c'était une première modalité. La deuxième modalité, c'était des techniques agricoles, donc épandage agricole des mulches, et puis ensuite semis par-dessus des graines. Donc voilà le type de semoir. Donc les semoirs agricoles ne sont pas équipés pour semer des graines en général, donc il a fallu tout adapter les semoirs. Et puis à droite, vous voyez un semoir hydraulique. Donc voilà la mise en place des essais. Donc c'était des essais de très grande envergure. Et donc je souligne la mise en place très très difficile, parce que c'est vrai que les conditions ont été désastreuses, à la fois climatiques, et le fait de mettre en place un protocole expérimental de cette taille, c'est infernal. Voilà, donc on n'a pas forcément réussi à faire tout ce qu'on voulait, c'est pour ça que les résultats peuvent être tout à fait, on va dire, modulés, quoi. Donc là, nous étions en 2006, et donc dès le printemps 2006, on a pu observer que la vie revenait. Alors faut savoir quand même qu'initialement, il était prévu que ces 35 hectares soient intégralement bâchés de plastique et plantés de jeunes plants. Là, au bout de quelques semaines de semis, on avait un paysage tout autre, c'est-à-dire qu'on avait une diversité floristique qui s'était déjà installée. Les chênes sont des arbres dont la graine n'a pas de levée de dormance, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ça, puisque ça peut faire l'objet d'une thématique particulière, le semis direct d'arbres. Mais bref, quand on sème un gland, il lève tout de suite. Donc ils étaient présents dès les premières semaines de semis. Et je développe un petit peu sur les pièges à graines. Donc les pièges à graines, vous en verrez sur le terrain. Un des exemples, c'est les pylônes à haute tension. Donc les pylônes à haute tension, c'est des pièges à graines naturels, c'est-à-dire que les oiseaux se perchent et certaines graines d'arbres ont besoin du tube digestif des oiseaux pour germer. Donc on voit bien qu'au pied des pylônes, il y a des arbres. Et puis il y a également une ruine qui est une ancienne station-service. Et on voit bien aussi qu'elle joue le rôle de piège à graines. Donc on est parti de cette observation pour imaginer des structures qui fonctionnent comme des haies sans plantation, en utilisant en fait tous les déchets de chantier qui étaient censés aller en décharge et qu'on a pu valoriser sur site. Donc il s'agit notamment de déchets d'élagage, également des zones de ballast qui avaient été déposées, et puis du béton concassé, entre autres, et puis des traverses de chemin de fer, etc. Donc tout ça a permis d'ouvrir la voie à tout un tas de possibilités. Il faut aussi savoir que quand on sème un couvert herbacé, et notamment du gazon, il est écrit dans tous les descriptifs, et je pense que les paysagistes présents dans la salle doivent connaître ce petit paragraphe des CCTP techniques, où il est dit que toutes les pierres supérieures à un diamètre de 5 ou 7 cm, ça varie, seront évacuées du site et envoyées en décharge. Donc ça, c'est absolument pas possible de faire des choses pareilles dans le contexte actuel. Donc effectivement, pour semer le couvert herbacé, notamment les gazons qui bordent les parcelles d'essai, on a épierré le site, mais tous les cailloux ont été récupérés et mis en andain pour créer ces fameux pièges à graines. Alors pareil, les grumes dans les chantiers d'abattage sont en général envoyées en décharge. Donc il a été proposé de faire comme il se passe en forêt, c'est-à-dire les insectes xylophages grignotent les arbres et donc progressivement dégradent les bois. Et il s'avère qu'en général, les semis spontanés d'arbres se développent très bien dans ces milieux. Donc on a juste copié ce qui se passe naturellement dans le milieu naturel. Et puis on a laissé faire un peu les opportunités de matériaux et puis des envies de créer des pièges à graines plutôt avec une présence physique forte. Parce qu'en général, quand on sème des arbres, les gens disent « vous n'avez rien fait ». Mais en fait, c'est l'idée de dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on fait, ça se voit, quoi. Donc le suivi des essais, c'est un suivi avec un protocole qui a été établi au départ. Donc on le suit à la lettre depuis 2007. Donc en ce sens, il y a eu pour l'instant 11 580 relevés qui ont été faits, donc uniquement sur la flore, pas sur la faune, et ça c'est un grand regret. Puis ensuite on fait les études statistiques. Donc l'objectif de nos semis, c'était d'arriver à 10 000 plantules hectare, et en fait on en est à 15 000 plantules hectare, donc pour l'instant ça marche. Malgré une forte prédation des lapins notamment, et autres, petits rongeurs, oiseaux au moment du semis, puisqu'on a la REP qui est à côté, donc la REP draine tout un cortège d'oiseaux tout à fait grainifages. Les résultats de ces tests ne sont pas encore aboutis, donc on a des résultats à N plus 2, mais on peut dire que globalement... dans les tests qu'on a faits, donc je ne vais pas développer parce que c'est plutôt le thème du paillage, mais on pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais en gros, les semis sur mulch ont donné de très bons résultats. On a été un peu déçus des semis de ligneux avec un couvert herbacé contrôlé, parce que notre couvert herbacé contrôlé a eu des résultats assez variables, puisqu'on a semé très tard, je passe les détails. Mais globalement, les arbres sont plus nombreux avec une végétation herbacée contrôlée. Donc les mulches restent une technique prometteuse. Les ligneux qui ont été semés avec des techniques agricoles, les modalités semées avec des techniques agricoles sont plus nombreux que sur les techniques hydrauliques. Et il se trouve effectivement que les végétaux qui sont peu appétants pour les lapins sont plus nombreux sur le site, évidemment. Donc 2 ans après le semis, les jeunes arbres sortent de la canopée herbacée. Voilà, donc vous voyez quelques images. Et 1 an après leur installation, les pièges à graines commencent à jouer leur rôle. Donc il y a effectivement des ligneux qui s'installent. On peut... faire un parallèle avec l'expérience de l'homme qui plantait des arbres de Giono. On peut dire que le taux de réussite de ce paysan était de 10%. À Clessouilly, on est aujourd'hui à 30%. Donc c'est bien mieux. Et peut-être à vérifier les années à venir. Donc quel futur pour ces techniques? On imagine des applications multiples. Ce sont des techniques qui apparaissent intéressantes aux plantations traditionnelles. Et donc ça mobilise l'intérêt de nombreux scientifiques et puis également tous ceux qui interviennent dans les aménagements du territoire en général. Là je vais passer vite aussi puisque c'est un site expérimental dont l'avenir est incertain puisque c'est une propriété de Réseau Ferré de France et que Réseau Ferré de France étant un propriétaire foncier très important en France, on ne sait pas comment va évoluer ce site. Mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que moi qui ai la gestion de ce site, il y a des grandes possibilités pour créer un site agroforestier, c'est-à-dire avec des techniques de gestion qui associent l'arbre et la culture. Donc la culture, ça peut être aussi bien l'élevage que l'agriculture ou le maraîchage. Il y a également des tests sur l'apiculture, c'est-à-dire l'influence de ces techniques qui sont en faveur de la biodiversité et de l'apiculture. Et puis la possibilité de créer un observatoire environnemental d'une grande envergure. Donc voilà, donc, ce site expérimental, il est tel qu'il est à N plus 2. On n'a donc pas tous les résultats, évidemment, mais c'est vrai que ça donne certainement des idées pour changer certaines pratiques, et notamment le regard qu'on peut porter sur des zones qui sont plus ou moins contrôlées. Donc on a l'essai paillage qui, lui, est très structuré et montre en fait une évolution possible des techniques de plantation traditionnelles, mais tout le volet semi-direct de ligneux offre des aspects qui sont assez peu communs dans les aménagements tels qu'on les pratique aujourd'hui, avec une image plus, naturelle. Alors je mets des gros guillemets. Donc c'est des questions qui sont posées sur ce qu'on attend des espaces aménagés. On est aussi en plein site périurbain, avec toutes les questions que posent ces zones périurbaines. Voilà, donc là, je vous montre quelques images liées à l'apiculture. Donc on fait des analyses de la pollen du miel, et il se trouve que les abeilles ont butiné les plantes du site uniquement et ne sont pas allées butiner les cultures à côté. Donc on suppose qu'elles trouvent ce dont elles ont besoin sur le site. C'est aussi une manière d'interroger les modes de gestion et les coûts d'installation, parce que l'ensemble de ces techniques a coûté 5 fois moins cher que des techniques traditionnelles, donc de plantation sur paillage plastique, avec un effet évidemment tout autre. C'est aussi une manière d'interroger le vivant, puisque autant des plantations sur paillage plastique ont un aspect homogène, en tout cas au niveau du sol pendant des années, autant ces techniques-là offre un aspect changeant à chaque saison. Et puis également, c'est une façon d'interroger la notion de déchets dans les aménagements dits paysagers, en fait, et puis d'interroger la question du cycle de la biomasse. Donc c'est un observatoire qui donne envie de poursuivre les observations pendant très très longtemps. Mais on peut dire que le bois vivant aime le bois mort. Ça, c'est un peu en réaction à... dans la continuité de l'intervention de Jackie Dupetit et des autres intervenants aussi, que le bois mort semble favoriser la vie des sols. Voilà, je vous remercie.